Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le premier bilan du plan pauvreté d'Emmanuel Macron. Un an après son lancement, il y a toujours près de 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois. Les associations peinent à comprendre la stratégie du gouvernement, on les entendra dans un instant. On se bouscule au portillon pour reprendre Aigle Azur. 14 offres de reprise de la compagnie aérienne, décision dans une semaine. Précision à suivre dans ce journal. À suivre également l'inquiétude des maires face à la mode du gaz hilarant chez les jeunes, reportage dans l'Oise. Nous serons également en Afghanistan, reportage sur la sécurité drastique autour de l'ambassade de France. Et puis cet événement pour les amoureux de Marcel Proust, des documents inédits exposés à l'occasion du centenaire de son Goncourt.
Et l'invité de Léa Salamé à 7h50 est aujourd'hui Georges Buisson. Il publie L'ennemi aux éditions Grasset.
France Inter.
C'était il y a un an, Sébastien Emmanuel Macron promettait d'éradiquer la pauvreté extrême.
Un plan pauvreté ambitieux, 8,5 milliards d'euros destinés aux plus démunis avec des mesures immédiates, petit déjeuner gratuit à l'école, 100 000 enfants en bénéficient depuis cette rentrée, nouvelles places en crèche, 2000 places créées sur les 15 000 promises, mais sur les mesures à plus long terme comme la création d'un revenu universel d'activité fusionnant tous les minima sociaux, eh bien le chantier ne fait que commencer. Bref, un an après, où en est-on? Le président Macron doit s'exprimer aujourd'hui devant des associations qui, elles, restent très sceptiques sur la stratégie de l'exécutif. Les 10% de Français les plus pauvres sont toujours aussi pauvres. Claire Chaudière.
À mi-mandat, la calculatrice est formelle. Ceux qui sont tout en bas de l'échelle et qui sont les plus éloignés de l'emploi n'ont pas vu, pour le moment, leur situation s'améliorer, répète la trentaine d'associations réunies au sein du collectif Alerte. Christophe Devis, son président.
Le pouvoir d'achat des 10% les plus pauvres a plutôt diminué, alors que le pouvoir d'achat de tous les Français, c'est plutôt amélioré.
En cause notamment la baisse des APL, alors que les plus pauvres n'ont pas bénéficié de la hausse de la prime d'activité. Si le plan pauvreté a redonné un peu d'espoir il y a un an, il se déploie très lentement. Le revenu universel d'activité ne verra le jour qu'en 2023 et surtout, il se heurte à des vents contraires, s'inquiète Claire Hédon d'ATD Quart-Monde.
Ce n'est pas cohérent d'avoir en parallèle des lois qui ne luttent pas contre la pauvreté, qui vont même à l'encontre, qui vont faire augmenter la pauvreté. Je pense à la question de la réforme de l'assurance chômage.
Et depuis deux ans, ajoute Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, la hausse des expulsions, la chute des contrats aidés, autant de coups durs loin des ambitions affichées.
C'est contradictoire. Quand on fait les comptes, on se dit, mais l'impulsion, le choix de dire je vais éradiquer la pauvreté, je veux qu'il n'y ait plus personne à la rue, on va résorber les bidonvilles. Si on continue comme ça, on n'y sera pas.
Mais il n'est pas trop tard pour envoyer des signaux forts, conclut le collectif associatif qui écoutera avec attention cet après-midi l'intervention du président.
Claire Chaudière, bilan du plan de lutte contre la pauvreté à lire aussi sur franceinter.fr. Ajoutons que sur la question de l'insertion, justement, qui sera au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron, le gouvernement annoncera aujourd'hui des crédits en hausse, 1 milliard d'euros en 2020. Et puis, ces derniers chiffres de l'emploi, l'embellie se confirme, plus 45 000 emplois salariés créés dans le privé au deuxième trimestre 2019.
7h33, Aigle Azur croule, Sébastien, sous les offres de reprise, mais aucune n'est acceptable en l'état.
14 offres de reprise exactement déposées hier pour la deuxième compagnie aérienne et ses 1150 salariés. Parmi elles, Air France, le groupe Dubreuil, propriétaire d'Air Caraïbes, ou encore Hop, la filiale low cost d'Air France. Des propositions qui restent à affiner. Toutes ces offres sont à parfaire, a déclaré hier la compagnie. Les repreneurs ont maintenant 48 heures pour rentrer dans le détail. Philippe Lefebvre.
Si l'on en croit les syndicats de la compagnie, sur les 14 dossiers présentés hier par l'administratrice judiciaire, il n'y aurait que 4 véritables propositions de reprise partielle de l'activité et une seule proposition pour la reprise totale de cette même activité, celle faite par un ancien patron de Hop, une filiale d'Air France. Loïc Philippot est vice-président du syndicat national des pilotes de ligne.
Il existe une offre complète au jour d'aujourd'hui, celle de M. Lionel Guérin. Il reprendrait l'ensemble du personnel. Alors, M. Guérin arriverait avec entre 40 et 50 millions pour la reprise, donc sur l'enveloppe globale de la reprise de la compagnie.
En revanche, les salariés de la compagnie ont observé avec une certaine prudence les autres propositions, et notamment celle d'Air France, car la compagnie nationale ne s'engagerait que sur une reprise de 70% des salariés de l'entreprise. Inacceptable pour Denis Sanchez, délégué des personnels navigants Force Ouvrière.
Il faut préserver les emplois d'Aigle Azur. Il faut préserver Aigle Azur. Cette entreprise a un vrai potentiel, une vraie rentabilité. C'est une niche extraordinaire et il n'y a pas de raison qu'Aigle Azur disparaisse. Aigle Azur a de l'argent. Voilà le potentiel pour en faire très vite.
Les potentiels repreneurs ont désormais 48 heures pour affiner leurs offres et ce n'est que lundi prochain que le tribunal de commerce d'Evry désignera le ou les repreneurs des glazures.
Philippe Lefebvre, stop au SUV, c'est Greenpeace qui ce matin épingle dans un rapport ses grosses voitures, à mi-chemin entre le 4x4 et le monospace, des véhicules plus lourds, plus gros que la moyenne, et qui tirent les émissions de gaz à effet de serre vers le haut. Le nombre de SUV a quadruplé en 10 ans en Europe. Là, c'est un autre gaz qui fait polémique, le protoxyde d'azote, un gaz utilisé dans les bombes à chantilly ou comme anesthésiant, mais qui est aujourd'hui détourné de son usage par les jeunes adolescents, car le proto, comme on l'appelle, provoque d'irrépressibles fous rires. Le problème, c'est que ce gaz hilarant est en vente libre et que la consommation s'envole avec de potentiels risques sur la santé. Alors des maires ont donc décidé d'en interdire la vente aux mineurs à Nîmes, à Aulnay-sous-Bois ou à Pont-Sainte-Maxence en Picardie où s'est rendu notre reporter Rémi Brancato.
Dans les rues de Pont-Sainte-Maxence, les adolescents assurent qu'ils n'ont jamais touché au proto, comme ils disent, le protoxyde d'azote, mais tous connaissent. Maxime a même ressenti les effets à l'hôpital comme anesthésiant.
Comme des hallucinations, moi je me rappelle, je voyais plus rien. Ça, j'avais l'impression d'être sur un toboggan, c'était vraiment spécial et ça dure le temps qu'on a du gaz, quoi. Après bah, ça s'arrête.
Tous les lycéens l'assurent, le gaz circule, dans les soirées notamment.
Ce qui paraît, c'est comme si ça te sonnait pendant 20 secondes, 30 secondes, t'es sonné et tu rigoles tout seul.
Et le maire a découvert le phénomène cet été, il patrouillait avec sa police municipale. Arnaud Dumontier a surpris des jeunes dans une voiture.
Nous constatons qu'ils ont à leurs pieds des cartouches de protoxyde d'azote, des ballons de baudruche portés à la bouche et qu'ils sont en train d'inhaler dans un état d'hilarité absolue.
Alors il y a 2 semaines et demie, il a pris un arrêté pour en interdire la vente aux mineurs. Pas suffisant, il le sait, et les lycéens aussi.
On peut acheter comme on veut. Sur Snap, tout ça, les réseaux sociaux, ça se revend.
Par exemple, la boîte de 10, elle est à 8 euros. Il y en a un qui achète en gros. Et après, il les revend.
Et c'est pas dangereux ?
Ça, je sais pas.
Pourtant, à forte dose, l'inhalation peut générer des risques respiratoires, cardiaques, neurologiques.
Ils ne peuvent pas avoir conscience du danger s'ils se contentent de lire la notice.
Arnaud Dumontier réclame donc une meilleure signalétique.
Seule une mention très pauvre, ne pas inhaler le gaz, apparaît.
Il vient d'écrire à la ministre de la Santé.
La mode des gaz hilarant, reportage de Rémi Brancato, retrouvé en longueur sur franceinter.fr.
Il est 7h37, direction l'Afghanistan. Maintenant, Sébastien, s'agit il de la fin des négociations de paix avec les talibans.
Donald Trump a été en tout cas très définitif cette nuit pour le président américain. Les négociations sont, je cite, terminées pour de bon, alors que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, lui, n'excluait pas ce week-end une reprise des discussions. En attendant une éclaircie sur le front politique, la situation sécuritaire reste très précaire, avec des attaques quasi quotidiennes. Illustration avec ce reportage de Valérie Crova à Kaboul, qui a pu rencontrer l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, ancien sarcoboy et qui vit aujourd'hui comme retranché dans un bunker.
Pour entrer dans l'enceinte de l'ambassade de France de Kaboul, il faut passer 2 immenses portails métalliques coulissants. Dans la cour, des sacs de sable protègent 2 postes de tir. À droite, des plaques rappellent les noms des 90 soldats français morts en Afghanistan depuis 2000 ans. Bonjour. Nous sommes accueillis par Roméo, un colosse de 2 mètres. Ils sont 7 policiers du RAID à assurer la sécurité de l'ambassadeur 24 heures sur 24. David Martinon, 48 ans, ancien porte-parole de l'Élysée, est en poste à Kaboul depuis un an. En plus de ses activités de diplomate, son quotidien est rythmé par des exercices.
Il faut se préparer à sortir d'un bâtiment officiel si le bâtiment est attaqué. Il faut se préparer à sortir de son véhicule si une mine magnétique lui est accolé. On s'entraîne surtout à se mettre très très rapidement en confinement de sécurité s'il y a une attaque.
Et des attaques, il y en a presque tous les jours à Kaboul.
Il n'y a pas de semaine sans que nous devions nous lever en pleine nuit et nous précipiter dans la safe room. C'est une chambre forte où on peut tenir quelques heures, voire quelques jours, et où l'équipe de sécurité peut tenir le siège.
En mai 2017, l'ambassade de France a subi d'importants dégâts suite à un énorme attentat à proximité qui avait fait 200 morts, le plus meurtrier depuis 2002. À Kaboul, Valérie Crova, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, une nouvelle étape très attendue aujourd'hui dans la constitution de la Commission de Bruxelles. L'attribution des portefeuilles pour les commissaires européens. On connaît le nom des 27 commissaires, 13 femmes, 14 hommes, commission presque paritaire. On connaîtra aujourd'hui leurs fonctions. La France espère décrocher un gros poste à l'économie pour Sylvie Goulard. Ce sera le sujet de la chronique de Pierre Aski à 8h17.
Et on termine, Sébastien, avec les 100 ans du prix Goncourt de Marcel Proust.
Il y a un siècle, ce monument de la littérature littérature française recevait le prix pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le deuxième volume d'À la recherche du temps perdu. À cette occasion, les éditions Gallimard, son éditeur historique, organisent une exposition avec des documents exceptionnels montrés pour la première fois au grand public. Ilana Mor-Youssef.
Le 10 décembre 1919, à l'heure du déjeuner, Marcel Proust dort encore lorsqu'il devient le 17e prix Goncourt au troisième tour de scrutin. Un Goncourt polémique, la presse parisienne dans sa majorité trouve le lauréat trop vieux, trop riche, son écriture trop bavarde. Alban Cerisier, commissaire de l'exposition.
On a appris à l'occasion de la réalisation de cette exposition que Proust lui-même était abonné à l'Argus de la presse. Et donc on a retrouvé tout récemment, dans les papiers de la famille, l'intégralité du dossier de presse Goncourt, mais qui appartient à Proust lui-même. On les a installés dans un seul cadre. Les deux tiers sont des articles négatifs contre Proust. Et puis il y a un petit tiers qui lui est favorable.
Clou de l'exposition, deux documents exceptionnels montrés pour la première fois au public. Deux dessins de l'écrivain Paul Morand, ami de Proust. Proust sur son lit de mort et Proust au Ritz en 1917.
Les représentations de Proust à cette époque-là de sa vie sont rarissimes. Donc la découverte il y a quelques mois par les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France de ce document-là, c'est un tremblement de terre dans le milieu proustien. C'est un énorme événement.
Les deux dessins sont exposés dans un coin de la galerie, recouverts d'un papier peint dans le style de l'époque pour figurer la chambre de l'écrivain.
Ilana Mor-Youssef, Marcel Proust, prix Goncourt. L'exposition du centenaire, c'est à partir de demain jusqu'au 23 octobre à la galerie Gallimard à Paris.